Je passe la parole à Corinne Inoudou.
Mon fil sera double. D'une part, je me demande quelle expérience de pensée la vie politique exige de chacun de nous, expérience qui serait la condition du sens de la politique. La politique a-t-elle encore un sens ? Et d'autre part, cette expérience de pensée peut-elle être absolument étrangère à toute vérité ? Alors, pour traiter cette question, je commencerai d'abord par montrer que, très brièvement, que politique et vérité entretiennent un rapport assez paradoxal. D'un côté, on peut soutenir que le champ politique est le plus étranger à la vérité. Du moins, si on entend par vérité un genre de discours précis, qui est le discours cognitif, le discours de savoir. Si savoir veut dire déterminer un objet, que cet objet soit empirique ou idéal, et si la détermination de cet objet est soumise à des procédures de validation, formelles ou matérielles. D'un côté, donc, si la vérité est cela, et si, de l'autre côté, la politique est un ensemble de décisions et d'actions qui engagent l'avenir, étant entendu que cet avenir est contingent, c'est-à-dire que l'avenir, c'est ce qui peut être autrement, ce qui peut ne pas être ou être autrement. Celui que l'on envisage peut ne pas être ou être autrement qu'on l'envisage. Et donc, cette indétermination de l'avenir empêche radicalement d'en faire un objet de savoir. C'est-à-dire que le futur échappe à la règle de tout discours de savoir, qui est que de deux propositions contradictoires, l'une est vraie et l'autre est fausse. Et le fait que l'avenir soit incertain, c'est ce qui rend le monde transformable et la politique possible. Si tel n'est pas le cas, la politique est dénuée de sens. Donc, si vérité il y a sur le futur, la politique est dénuée de sens. Donc, à ce titre, on voit mal que politique et vérité puissent entretenir des rapports heureux. Et donc, en guise de vérité, je dis bien en guise, et donc il faudrait des guillemets à vérité, la politique engage au mieux ce qu'on appelle des principes qui valent absolument pour ceux qui les adoptent, mais qui n'ont pas de moyens, ces principes, d'être validables et validés objectivement, c'est-à-dire que rien ne contraint à y consentir. La politique est donc l'exception au savoir. Une des exceptions au savoir, mais de toutes les exceptions, peut-être la plus humiliante, parce qu'évidemment, son enjeu à la politique est énorme, c'est tout le devenir des sociétés humaines. Et donc, ce devenir, on supporte mal de devoir le laisser à l'aléa. On voudrait le maîtriser, je dirais, sur une base qu'on pourrait résumer avec la formule de Comte, science d'où prévoyance, prévoyance d'où action. Donc le vœu de la politique, c'est de résorber la contingence, de rendre l'histoire humaine vraie, c'est-à-dire intelligible et prédictible. Alors, en ce sens-là, c'est-à-dire pour autant que la politique ait ce vœu, elle est tout entière confrontée et continuellement à la vérité. Bien qu'étrangère, elle ne cesse de vouloir se donner une vérité. Ce qui suppose de résorber la contingence. Arendt, car évidemment tout ça, c'est Arendt d'une certaine façon, Arendt montre qu'il y a deux versions de la résorption de la contingence. Ou bien on pense la politique comme une fabrication de l'histoire, c'est-à-dire que l'homme fait l'histoire volontairement et violemment. C'est ce qu'elle explique dans La condition de l'homme moderne, dans Qu'est-ce que l'autorité, dans son journal de pensée. Ça veut dire que l'histoire humaine se fabrique comme n'importe quelle œuvre, qu'il s'agit d'un façonnement technique, qu'il faut projeter une fin, un résultat, et se donner les moyens, contrôler, d'atteindre cette fin. Et la vérité de la politique dans ce cas dépend à la fois de la vérité de la fin visée, ce qui n'est pas simple, puisque ça veut dire qu'il faut la fonder dans un récit, dans un mythe, dans une rationalisation quelconque, et ensuite la vérité de la politique dépend de l'adéquation des moyens, ça c'est des problèmes techniques, d'experts, l'adéquation des moyens à cette fin. Première version de la résorption de la contingence, donc. Deuxième version, la politique se pense comme un dévoilement de l'histoire, et dans le dévoilement, on a déjà la vérité. Dévoilement de l'histoire, ce qui veut dire que l'histoire, c'est l'histoire qui fait les hommes, qui les fait d'ailleurs à leur insu, que cette histoire est un processus sans sujet, ce développement de lui-même, selon une loi, qui, aux yeux d'Arendt, peut être loi de la nature, loi proprement historique, dans la tradition philosophique, loi de l'esprit. Et la vérité, dans ce cas-là, appartient au développement en tant que tel. Le développement est ce qui dévoile, c'est-à-dire ce qui met au jour la série des événements et qui, à ce titre, sont vrais du seul fait qu'ils sont. Et à ce moment-là, l'action politique, l'ambition de participer ou d'intervenir, en fait, est elle-même prise, qu'elle le veuille ou non, dans ce dévoilement qui la dépasse. Le propre du totalitarisme aux yeux d'Arendt est, et c'est ça peut-être une des raisons pour lesquelles il est inédit, c'est de combiner ces deux modalités de résorption de la contingence. C'est-à-dire de fabriquer, première version, une réalité, mais une réalité qui vérifiera complètement le destin. Destin que l'on a pensé, c'est-à-dire destin au sens d'une histoire obéissant à une loi. Donc, vérifier une loi de développement. Vérifier un dévoilement par anticipation en fabriquant la réalité qui corroborerait ce dévoilement. Et en particulier, ça veut dire, si on pense la loi du développement comme une sur un modèle darwinien, ce que Arendt dit, alors ça veut dire qu'il voue un certain nombre de populations et de classes sociales à la disparition, comme dans l'évolution des espèces. Et donc, il s'agira, si on veut fabriquer la réalité ad hoc, d'éliminer un certain nombre de populations et de classes, en ne faisant par là qu'accomplir la loi du destin. Alors, la folie pour Arendt est complète, puisque, évidemment, ça veut dire qu'on pense l'histoire comme un destin dont on connaîtrait la loi, c'est-à-dire qu'on s'oppose à cette idée première qui est que les futurs sont contingents. Et deuxièmement, on fait de la politique une espèce d'exécution, dans tous les sens d'exécution, du destin, sans plus rien avoir à penser, à délibérer, à juger. Mais le paradoxe, c'est que les méfaits, et c'est peu dire, du dogmatisme politique, donc d'une politique qui veut résorber la contingence, semblerait inviter au relativisme, c'est-à-dire que la politique relève strictement de l'opinion et donc de l'arbitraire, même si on ne prend pas arbitraire dans un sens péjoratif, et que finalement l'opinion juste, c'est l'opinion qui rallie le plus de voix, et ceci par convention, et dénombrement des voix. Or, l'objection pour Arendt, c'est que la politique régie par l'opinion et les aléas de l'opinion est une politique irresponsable. Aussi responsable qu'une politique qui invoque une nécessité absolue d'un destin. Je dirais pour simplifier que contre la politique barbare votée à la majorité, il faut de l'indiscutable. Donc, Arendt est prise, me semble-t-il, dans une double contrainte. D'un côté, réhabiliter l'opinion, c'est-à-dire la contingence, contre la folie dogmatique, mais en même temps, lui chercher une vérité de l'opinion, ce qui est un peu un oxymore, ou encore, dit autrement, réhabiliter un absolu, mais en même temps, il me semble, cantonner cet absolu à un statut strictement restrictif, c'est-à-dire un absolu du mal, et non pas un absolu du bien. Alors, avant d'en venir à cette opinion vraie, à cette vérité de l'opinion, qui sera donc mon troisième point. Je voudrais, dans un second temps, montrer d'abord que la politique exige de reconnaître comme indiscutable, avant quelques principes absolus, serait-il négatif, de reconnaître comme indiscutable une première vérité qui est la vérité de fait. Or, il faut comprendre comment situer la vérité de fait par rapport au champ politique, c'est-à-dire quel statut politique reconnaître à la vérité de fait. Et parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je procéderai quasiment par liste de points à avoir en tête. D'abord que toute vérité aux yeux de Arendt, que ce soit une vérité de fait ou une vérité de raison, que cette vérité soit une vérité immédiate, c'est-à-dire qui invoque l'évidence, évidence perceptive ou évidence intellectuelle, ou une vérité médiate, c'est-à-dire qui a besoin de médiation de la preuve, de toute façon, une vérité se reconnaît à son pouvoir coercitif. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est reconnue comme vraie, elle est contraignante, elle est sans discussion, et elle ne dépend plus du nombre d'opinions, enfin, du nombre d'assentiments, ralliés. Galilée est seul à avoir raison contre tous. Deuxième point, la vérité est menacée, toute vérité est menacée dès qu'elle contrarie un intérêt, l'intérêt de quelqu'un, de quelques-uns. La vérité la plus haïe, la plus têtue et donc la plus menacée est la vérité de fait. La plus haïe, car la plus têtue. Dénier la vérité de fait, c'est procéder au mensonge. Le contraire de la vérité de fait n'est pas l'erreur, c'est le mensonge. C'est-à-dire dissimulation et destruction des traces, des témoignages. Troisièmement, or, il y a justement une affinité de principe, si j'ose dire, structurelle, entre l'action politique et le mensonge. Parce que les deux présupposent la contingence, c'est-à-dire que ce qui s'est passé aurait pu se passer autrement, et que et l'action et le mensonge partagent le pouvoir de changer la réalité. Le mensonge est une action. Il fabrique une autre réalité que celle qui s'est produite. Il réécrit l'histoire. Le mensonge réécrit les livres d'histoire où on supprime Trotsky de la Révolution russe. Lorsque le mensonge est là, le monde perd ses assises. On en a entendu parler pendant ce colloque hier avec Anne-Marie Roviello. C'est-à-dire, il perd ses assises parce que le passé et le présent, c'est-à-dire ce qui est objet de vérité de fait, sont traités comme des catégories du futur. C'est-à-dire sont ramenés au potentiel, à des possibles, et d'ailleurs à ce titre sont indéfiniment remaniables, c'est-à-dire qu'il faut que le mensonge se rectifie. Donc le monde devient complètement instable et flottant, et s'il n'y a plus la vérité de fait, des faits passés et des faits présents, à ce moment-là, l'action politique perd son orientation, c'est-à-dire qu'elle n'a rien sur quoi faire fond pour justement s'orienter vers l'avenir. Cinquièmement, dire la vérité de fait, en principe, ça n'est pas une action. En principe, c'est une connaissance, c'est un discours de connaissance qui consiste à accepter la réalité. Non seulement ça n'est pas une action, mais en principe, dire la vérité de fait, explique Arendt, tout ça est dans l'article Vérité et politique, tout ce point autour de la vérité de fait, établir la vérité de fait exige le retrait hors de l'action. C'est-à-dire que c'est l'activité d'individus qui sont des observateurs, des chercheurs, les historiens, des juges, dans l'institution judiciaire, je veux dire de ceux qui ont à instruire un procès. Et cette extériorité hors de l'action est la condition de leur impartialité, tout du moins d'un premier type, car je voudrais montrer qu'il y a un deuxième type d'impartialité, un premier type d'impartialité. Donc, en principe, la vérité n'est pas du ressort, dire la vérité n'est pas du ressort de l'action. Pourtant, dit Arendt, quand tout le monde ment, quand le monde est menteur, alors le diseur de vérité agit. Je la cite, parce que cette circonstance, si on pense, je ne sais pas, ne serait-ce qu'à Anna Politkovskaya, quand tout le monde ment, le diseur de vérité, qu'il le sache ou non, a commencé d'agir. Lui aussi s'est engagé dans le travail politique, car dans le cas improbable où il survit, il a fait un premier pas vers le changement du monde. Dans le cas improbable où il survit. Sixième et dernier point de cette liste, l'attitude politique envers les faits, doit emprunter un chemin étroit, la formule de Arendt, entre deux tentations. Tentation de toute puissance de la politique qui est que tout peut être changé, y compris le passé, que ce qui est à transformer, ça n'est pas l'avenir, enfin, ça n'est pas le présent pour aller vers un avenir, mais qu'on peut transformer l'établissement du passé et l'établissement du présent. Et de l'autre côté, une tentation qui appartiendrait à l'historien ou au philosophe de l'histoire, qui est de croire que tout est nécessairement déterminé, y compris l'avenir. C'est-à-dire que là, la nécessité aurait mordu sur l'avenir. Donc on a là un premier statut politique accordé à la vérité, qui est donc la vérité de fait impartiale, d'un premier type d'impartialité, acquise en dehors de l'action, mais pouvant avoir un rôle au sein même de la politique comme action. Mais maintenant, j'en viens à la plus grande difficulté à mes yeux, car je crois que tout ça, j'oserais presque dire, est indiscutable, ce que Arendt nous apprend à propos de la vérité de fait. Quelle vérité peut s'acquérir à l'intérieur même du champ politique? C'est-à-dire, quelle vérité reconnaître à l'opinion? Pour reprendre un terme platonicien, est-ce que vraiment on peut soutenir qu'il y a une opinion vraie? S'il est vrai que l'opinion, c'est l'évaluation, ça n'est pas l'établissement, mais l'évaluation des faits présents, et l'évaluation de l'avenir possible. On l'a souvent rappelé, tout à l'heure, l'opinion, c'est le dokeimoi, c'est il me semble à moi, c'est là ma perspective à moi. C'est comme ça que j'évalue. Toute vérité de raison qui énonce des valeurs, à partir du moment où elle entre dans le champ politique, dit Arendt, devient ipso facto une opinion. C'est-à-dire ramenée au statut de dokeimoi, il me semble. Et à ce titre, sujette à débat. Et ce, parce que les affaires politiques sont humaines et rien qu'humaines, et donc ne supporte d'obéir à aucune transcendance, raison pour laquelle, comme le rappelait Jean-Claude Hélin, il faut en appeler à l'enfer lorsqu'une transcendance veut s'imposer. Les affaires humaines sont interhumaines, c'est un réseau de relations, et comme le mot de relation l'indique, elles sont relatives et ne supportent pas d'absolu. Mais pourtant, toutes les opinions ne se valent pas. Toutes les opinions sur le monde tel, c'est-à-dire, entendons-nous bien, toutes les opinions évaluant le monde tel qu'il est ou tel qu'il pourrait être à l'avenir, ne se valent pas si on refuse le cynisme politique. Et alors, vient la question, d'où viendra la vérité d'une opinion ? Il me semble que la réponse d'Arendt, c'est que, bien sûr, elle ne vient pas du nombre, mais de la manière de former cette opinion, c'est-à-dire d'une expérience de pensée, qui est bien l'objet de notre après-midi. Or, cette expérience de pensée par laquelle on forme une opinion vraie, à à deux temps. D'une part, il faut un temps d'imagination, où il faut envisager la multiplicité des opinions possibles sur le sujet, ce qui permet d'arriver au deuxième type d'impartialité, c'est-à-dire s'abstraire de son propre intérêt. Donc, un procédé de variation imaginaire, d'une certaine façon. Et dans un deuxième temps, il faut opter. Et c'est évidemment ça le plus difficile. C'est-à-dire, on peut éventuellement envisager une multiplicité d'opinions, mais il faut choisir. Il faut arrêter une opinion. Et là, il faut une norme, d'après laquelle juger quelle est l'opinion la meilleure. La norme, dit Arendt, d'après laquelle juger, et là je la cite, conférence de New York, éditée par Jérôme Cohn dans Responsabilité et jugement, la norme d'après laquelle juger est le monde et non le soi. J'ai pas le temps de m'apesantir sur le soi, c'est ni le soi de l'intérêt personnel, ni même le soi moral, car pour Arendt, la morale est du registre du soi. Donc la question à se poser quand on doit opter, après avoir fait ce travail, cette expérience de pensée qu'est la variation imaginaire, la question à se poser, c'est est-ce que cette opinion mise en œuvre fera naître un monde où le plaisir de partager et l'échange réciproque sera possible, sera accru. Laquelle des opinions entre lesquelles opter rend le mieux possible ce monde ? Je veux juste remarquer que finalement, cette formation de l'opinion, cette expérience de pensée qui permet de former l'opinion, se justifie d'une manière circulaire. C'est-à-dire que l'opinion n'a pas d'autre norme que de préserver d'une certaine manière ce qui la rend possible elle-même. L'opinion juste, c'est celle qui rend possible un monde pluriel partagé, mais ce monde pluriel partagé, c'est celui qui autorise à des individus le temps et l'expérience de pensée d'une opinion. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de cercle. Je donnerai juste un exemple d'opinion dont la vérité est ainsi établie, c'est l'égalité, dont nous avons parlé hier avec toutes les difficultés qu'elle soulève, l'égalité des hommes, dont Arendt dit, dans les fragments rassemblés dans « Qu'est-ce que la politique ?», de cette égalité, que c'est la conviction de la dignité originelle de tous ceux qui ont visage humain. Cette égalité, dit-elle, est indémontrable. En vérité et politique. Elle est indémontrable. Mais elle est la condition de la liberté, qui est le sens de la politique. Ça vient de nous être rappelé. C'est-à-dire que la liberté n'existe qu'entre égaux. Elle va même jusqu'à dire, dans les vies politiques, que même dans le texte sur Lessing, à l'occasion du prix Lessing qui lui avait été remis, que même si l'inégalité des races était établie, comme vraie, et que la voix de la conscience morale était complètement éteinte, le principe d'égalité resterait toujours valide, parce qu'il est la condition de l'amitié, et l'amitié n'est pas du tout une relation personnelle pour Arendt, mais une relation politique. C'est l'égalité et la condition de l'amitié, veut dire, est la condition de la réciprocité, la condition de la communication, la condition de la communauté politique. Je conclurai en disant que on sait donc quel est le statut de la vérité en politique. Il y en a au moins deux. Vérité de fait acquise à l'extérieur du champ politique, première impartialité, mais pouvant avoir une fonction politique. Deuxième statut, l'opinion vraie acquise à l'intérieur du champ politique par une expérience de pensée, qui elle-même exige deux choses, une variation imaginaire et un jugement régulé par un horizon, qui est le monde commun. J'ajouterai qu'il y a, ça n'était pas mon propos et je n'ai pas le temps, en fait, une troisième vérité qui est le dernier rempart dans les situations limites qui serait le scrupule, qui est la vérité morale qui se joue entre moi et moi, c'est-à-dire ce que je ne peux pas faire, moi tout seul, à l'égard de moi, tuer des innocents, dit-elle, dans toujours conférence de New York. Et de ces trois vérités, nous sommes comptables. Et ce qu'elle appelle le mal, c'est ne pas être comptable de ces vérités. D'aucune de ces vérités, c'est le mal le plus complet. Mais, et elle y insiste, il y a des degrés dans le mal. Et je pense que ces degrés se comptabilisent justement en fonction du type de vérité ou du cumul de types de vérités que l'on ne veut pas reconnaître. Mais je pense que, et je termine complètement, le mal totalitaire est le mal où on ne fait plus l'expérience d'aucune de ces trois vérités, qui exigent toutes les trois une expérience, l'expérience directe ou rapportée des faits, ça c'est la vérité de fait, l'expérience de pensée qu'exige l'opinion vraie, et l'expérience morale qu'exige le scrupule. Ce qui veut bien dire que le mal moral et l'injustice politique, que je distingue, sont tributaires de la pensée, sont en fait complètement suspendus à la pensée, en l'occurrence à son absence, et qu'on peut entendre les deux propositions de Arendt, je veux dire successives. Ce mal totalitaire est radical au sens où il a éradiqué toutes les modalités de la vérité, les trois, et en même temps il est banal parce qu'il est sans racine, comme elle le dit, c'est-à-dire sans profondeur, parce que la profondeur, c'est l'expérience de pensée. Je vous remercie.
Je vous remercie moi aussi, Corinne Hénaudeau, de cette communication extrêmement riche et énergique qui ne manquera pas de susciter des questions.